Voilà, je suis techniquement harnaché pour pouvoir vous parler, je pense, à haute et intelligible voix. Je vais donc vous entretenir de la présence de l'ange dans l'Occident médiéval à partir de cette préface rédigée par Henri Corbin en 1974 en vue de la publication d'une thèse sur l'ange dans la pensée et l'art de l'époque romane, pour laquelle il avait été convié au Centre d'études supérieures de Poitiers. Dans la préface en question, parmi de nombreux thèmes abordés, Corbin mettait en valeur en particulier l'iconographie comme mode de présence angélique dans le christianisme et comme chemin vers la perception de formes spirituelles. Il concluait sa préface par un appel final à recueillir toutes les présences, manifestations iconographiques ou mentales, comme témoignage de la rencontre avec l'ange. Je vous invite donc à revisiter ce thème dans le christianisme médiéval, en s'arrêtant plus particulièrement aujourd'hui, puisque j'ai déjà eu l'occasion de parler de ce sujet, sur l'ange comme image et comme capacité de figuration spirituelle. Je souhaiterais, dans un premier temps, faire une mise au point rapide sur les notions d'image, de vision et de figure telles qu'elles ont été définies et maniées par les autorités médiévales. Nous verrons ensuite en quoi la manifestation angélique est une figuration, non seulement de fonction, mais aussi de degré ou d'état spirituel, et en quoi cette figuration invite ou conduit à une transfiguration, c'est-à-dire à un passage vers un état spirituel supérieur ou vers une participation sous différentes formes à la divinité. Donc cette réflexion s'appuiera sur un certain nombre de textes spirituels et sur des documents iconographiques qui ont été conçus entre le XIIe et le XIIIe siècle en Occident. Et je vous présente ce propos en tant que, non pas en tant que philosophe, hein, je tiens à le préciser, mais en tant qu'historien de la spiritualité et historien des images. Alors, tout d'abord, un premier point sur les angélophanies et la pensée figurative dans la tradition médiévale. Il est entendu que l'ange et l'homme ont été créés pour contempler Dieu. Et c'est d'ailleurs ce qui fonde leur égalité finale, bien qu'il y ait antériorité et supériorité de la créature raisonnable qu'est l'ange sur la créature corporelle qu'est l'homme. Dans le vocabulaire utilisé par les médiévaux, c'est moins la notion d'imago qui est utilisée à propos des anges que la notion de similitudo ou encore celle de signaculum, sceau ou signe de la ressemblance, en référence au livre d'Ézéchiel. Donc la notion d'image s'applique eu égard à l'intelligence, à la rationalité, à la liberté et à la vertu de l'ange. La ressemblance de Dieu, en effet, est la première caractéristique de l'ange. Pour les auteurs monastiques, l'ange est d'ailleurs souvent supérieur à l'homme parce qu'il est conçu comme une image plus expressive de Dieu, plus proche de lui. Mais si l'on considère l'âme, l'homme est image et ressemblance de Dieu comme les anges, car l'image de Dieu est dans l'esprit, nous dit Pierre Lombard. Donc, c'est le premier point sur l'image. Maintenant, le deuxième concept qui est largement utilisé, c'est évidemment le concept de vision, qui subit évidemment un certain nombre de tensions entre, dans la tradition occidentale, entre l'héritage augustinien et l'apport plus ou moins bien intégré, on va le voir, de Denis l'Aréopagite. Donc je rappelle simplement que pour saint Augustin, qui sert de cadre général à toute la pensée médiévale, il y a la vision corporelle, bien sûr, il y a la vision spirituelle et la vision intellectuelle. Concernant la vision spirituelle, celle-ci, finalement, ne concerne que la partie inférieure de l'âme, d'où la notion de fantasia, hein, image qui renvoie à une perception conservée dans la mémoire et présente à l'imagination. Donc il y a bien une théorie, on va dire, de l'image dans la pensée de saint Augustin, mais cette théorie a ses limites, puisque en fait elle ne permet pas d'accéder à véritablement une vision de Dieu. C'est la vision intellectuelle, la vision sans image, qui l'emporte dans sa philosophie. Les théophanies de l'Ancien Testament, dont nous allons parler, sont des visions partielles, à ses yeux, d'un aspect de Dieu. Elles ne font pas voir son essence. Reste le cas de l'extase, ici-bas, qui est pour Augustin un arrachement au monde sensible. De là, les expressions de raptus, fréquentes dans les textes médiévaux, ou d'excessus mentis. Depuis l'ascension du Christ, il ne reste plus aux yeux de saint Augustin que deux types de visions ici-bas, les extases, dont on vient de dire un mot, et les songes spirituels. Alors par rapport à cette... parce qu'il faut bien traiter des songes spirituels, étant donné qu'il y en a un certain nombre dans les Écritures. Par rapport à ce cadre général, Denis l'Aréopagite présente évidemment une philosophie toute différente, enfin, une grande partie différente, puisque... il considère que Dieu ne peut pas être connu dans son essence, il reste inaccessible, invisible, et qu'une théorie donc, de la médiation est nécessaire. Pour Denis, les théophanies sont des manifestations qui révèlent l'invisible tout en préservant le secret de la divinité. Et la béatitude finale est elle-même théophanie, car Dieu contient toute chose. Toute vision de Dieu, donc même de la face divine, est une théophanie et apparaît de manière figurée. Alors, j'en viens maintenant à la notion de figura. Cette notion de figura est aussi fréquente chez les auteurs médiévaux. À partir de son sens plastique initial, d'objet façonné, elle a pris chez les latins le sens plus souple de forme et a évolué vers l'abstraction. Elle a pris le sens d'image, de forme exemplaire, de modèle, d'idée, au sens néoplatonicien. Et elle est introduite dans la tradition des pères de l'Église, au IIe siècle. Et elle va servir, en réalité, à harmoniser les deux grandes tendances de l'exégèse chrétienne de l'époque, la tendance allégorique, qui privilégie l'élément moral et mystique, et la tendance historique qui conserve l'historicité de l'Ancien Testament. Et donc cette interprétation figurative, relayée largement par Augustin en Occident, prend le sens donc de prophétie réelle. Juste un mot là-dessus, c'est assez connu. Hein. C'est-à-dire qu'on est en présence d'un schéma, au fond, à trois termes. Le schéma promesse, qui est contenu dans une figure, dans une figura, dans l'Ancien Testament, l'accomplissement de cette figura dans le Nouveau Testament, l'un et l'autre renvoyant au fond à un accomplissement définitif dans l'au-delà. Donc l'événement est arraché au temps pour être placé comme figura dans la perspective de l'éternité. Cette conception, inhérente à l'interprétation figurative est devenue une composante essentielle de la vision de la réalité et de l'histoire dans le monde médiéval. Les deux pôles de la figure, le signe annonciateur et l'accomplissement, sont disjoints temporellement, mais appartiennent à la temporalité, et ils renvoient, au fond, à l'éternité. Le premier fait ou figure annonce le deuxième, qui accomplit le premier. Ces faits sont intra-historiques, mais tous deux ont quelque chose de transitoire, d'incomplet, et renvoie à une réalité future qui réalisera leur vérité pleine. Alors, un point qui est souligné par Eric Auerbach, qui a notamment rédigé ce fameux article Figura à la fin des années 30, et qui me paraît important, c'est que le caractère transitoire de l'événement n'a rien à voir avec l'évolution historique au sens courant du terme. Il s'agit, nous dit-il, je cite, non pas d'une interprétation continue, progressive, horizontale, sur la ligne des événements, mais d'une interprétation verticale, les faits étant détachés les uns des autres, envisagés isolément par rapport à un tiers événement qui n'existe qu'à l'état de promesse. Même inachevé, le prototype futur est déjà pleinement accompli en Dieu. Les figures sont la forme transitoire, une réalité éternelle et intemporelle. Elles annoncent l'éternité. Donc, dans le sillage des récits bibliques d'apparition, la littérature chrétienne a adopté par ailleurs l'idée d'une corporéité angélique. Je n'insiste pas là-dessus parce que ça m'entraînerait trop loin. J'y reviendrai éventuellement s'il y a des questions. Concernant maintenant, je dirais, les exemples pour illustrer ce que je viens de vous exposer très brièvement, je vous prendrai deux exemples iconographiques, l'un bien connu, l'autre peu ou pas connu. D'abord, le cas de l'hospitalité d'Abraham, probablement l'angélophanie la plus connue de l'Ancien Testament, angélophanie sur laquelle d'ailleurs Corbin s'exprime à plusieurs reprises. Angélophanie qui est interprétée dans la tradition juive comme étant une vision de Yahvé, puis ensuite des trois anges identifiés par le Midrash à Michel, Gabriel et Raphaël. À partir de cette exégèse juive, la tradition chrétienne a, on va dire, ajouté deux sens, deux traditions interprétatives. Donc les choses sont à cet égard plus complexes que Jörg Corbin le dit dans les allusions à cet épisode, puisque l'ambiguïté même du récit de Genèse 18 conduit à voir avoir deux directions interprétatives, une direction christologique et une direction trinitaire. Premières interprétations sont en fait une des interprétations christologiques. Il en vit trois, nous dit le texte, il n'en adora qu'un. Il s'agit, pour des auteurs comme Irénée ou Origène, d'une vision du Verbe, une préfiguration du Verbe, de son incarnation, accompagnée de deux anges. La deuxième ligne interprétative, c'est celle qui va être empruntée par Ambroise, puis par Augustin. Il s'agit d'une préfiguration de la Trinité. En fait, Abraham adore, sous la forme de trois anges, un seul Dieu. C'est donc là une préfiguration. Donc on a une polysémie de la tradition interprétative, que l'on retrouve d'ailleurs dans l'iconographie, notamment puisque, avec les deux représentations que vous avez ici, vous avez la représentation de Sainte Marie Majeure, début du 5e siècle, qui est encore marquée par cette tradition d'interprétation christologique. On voit nettement en haut que le personnage principal est dans une sorte de halo lumineux qui l'entoure complètement. Il est donc valorisé par rapport aux deux autres, ce qui est déjà un peu moins le cas en bas, bon, même si le personnage central est un peu plus grand que les deux autres. Et puis à Ravenne, à peu près un siècle plus tard, nous avons une égalité des trois personnes, des trois voyageurs attablés. Et on est donc au point de départ de la tradition qui va mener à la fameuse icône de la Trinité, de Roubloff. Alors que pour la période médiévale, eh bien, finalement, on mesure au combien les écarts entre cette tradition majoritaire augustinienne et la réalité iconographique, comme souvent. C'est-à-dire que l'on a, dans la majorité des cas, une valorisation de l'un des trois personnages par rapport aux deux autres. Deuxième exemple que je voudrais creuser, parce qu'il me paraît très important, il relève de la littérature hagiographique. La vie de Saint Cuthbert, que personne ne connaît, bien qu'il soit un des saints britanniques les plus populaires, est intéressante parce qu'elle est représentative, en quelque sorte, de l'usage de l'ange d'un point de vue, on va dire, d'itinéraire spirituel ou initiatique. Il s'agit d'un personnage qui est donc né vers 634 en Northumbrie, la première région d'Angleterre convertie au christianisme, qui est devenu moine à l'issue de tout un parcours et qui a terminé sa vie comme ermite en 687. Sa vie nous est racontée par deux textes du début du 8e siècle, donc peu de temps, très peu de temps finalement après son décès. Cette vie est marquée par quatre apparitions angéliques qui scandent les principales étapes de l'itinéraire spirituel du saint. Cuthbert, simple laïc, souffre depuis l'enfance d'une infirmité au genou. Il est guéri par l'intermédiaire d'un ange qui a pris la forme d'un voyageur à cheval venu demander l'hospitalité. Ce passage se rapporte explicitement au modèle biblique de Tobie guéri par l'ange Raphaël. Le voyageur est vêtu de blanc et le remède proposé est aussi d'une blancheur céleste. La guérison du corps de Cuthbert entraîne la reconnaissance de la nature angélique du voyageur médecin. À la guérison du corps succède la vision de l'ascension de l'âme d'un saint homme, l'évêque Edan. Devenu gardien des troupeaux de son père, Cuthbert passe la nuit en prière et c'est alors qu'il voit les cieux ouverts et les anges descendre et monter avec cette âme dans leurs mains, comme dans un globe de feu. Il réveille ses compagnons et leur révèle qu'il s'agit d'un saint évêque. Plus tard, ils apprennent son identité. Il s'agit de l'évêque du lieu, Edan, et le synchronisme entre sa mort et la vision qu'a eue Cuthbert de l'ascension de son âme. Donc le modèle biblique est ici celui de l'échelle de Jacob, mais ici la vision n'a pas lieu en songe, elle est spirituelle. Et la miniature du manuscrit d'Oxford transpose fidèlement à la fois la descente des cœurs angéliques qui remonte au ciel en emportant l'âme des Danes, double mouvement des anges qui suggèrent la descente tandis que leurs mains voilées tiennent l'âme des Danes et esquissent une remontée. Notons aussi l'attitude de Cuthbert montrant la vision à ses compagnons endormis qui s'oppose à celle de l'un d'eux qui a les yeux ouverts mais ne voit rien. Ainsi, l'image parvient à traduire la distinction entre vision spirituelle et vision corporelle, déjà présente dans le texte de Bède le Vénérable. Cette vision des cieux ouverts et du mouvement des anges révèle à Cuthbert sa vocation spirituelle. Il entre dans les ordres, il est préposé à l'accueil des voyageurs au monastère voisin de Ripon. Un jour de tempête, il reçoit un homme. La tempête d'hiver, il est aussi question de traces dans la neige. Il reçoit un homme, il lui réchauffe les mains et lui lave les pieds, court chercher du pain au four du monastère, ce qu'on voit à droite, et sort en intimant au voyageur de rester à table. Le voyageur, à son retour, a disparu, sans laisser de traces dans la neige, et dans la pièce se trouvent trois pains chauds d'une odeur exquise. Cuthbert comprend alors que le voyageur égaré était un ange. Et là, l'épisode se réfère donc sur deux modèles, celui de l'hospitalité d'Abraham, bien entendu, dont nous venons de parler, et celui du Christ, avec évidemment le lavement des pieds. Cuthbert donc est à l'image du patriarche, Abraham, qui a reçu trois voyageurs aux chaînes de Mamré, et à l'image du Christ, qui a lavé les pieds de ses apôtres. En outre, ces deux références se conjuguent dans l'évocation du mystère de la Trinité, dans la mesure où l'hospitalité d'Abraham a reçu le sens donc, de théophanie trinitaire, et où les pains, les trois pains, font allusion à la consécration des espèces lors de la scène. Donc l'ange a apporté les pains que la terre ne peut produire, l'ange et l'homme sont partenaires dans cette scène visionnaire, les gestes miraculeux du messager répondent aux gestes d'hospitalité de l'homme, tous deux actualisent les gestes et les paroles du Christ, l'un étant l'étranger, l'autre étant le serviteur. Et enfin, je passe sur les détails de l'image, parce qu'il y en a quand même un qui est très intéressant, c'est que la première figuration de l'ange à gauche, les ailes et les vêtements sont colorés, alors que dans la scène de droite, il a changé, la couleur des ailes a changé, et c'est en tant qu'ange qu'il apporte les pains, alors qu'à gauche, il est donc figuré en voyageur. C'est le changement d'identité qui est traduit dans l'iconographie ici. Donc cette angélophanie a fait franchir à Cuthbert une nouvelle étape de son itinéraire spirituel. Son amour du prochain lui vaut de parvenir à la plus grande connaissance des mystères divins, donc de voir les anges, de converser avec eux. Et il finit donc, après de longues années, en quête d'un lieu isolé, par se retirer sur l'île de Farne. Et c'est sur l'île de Farne qu'il est amené donc à construire son ermitage avec l'aide d'un ange. Île de Farne, qui est un lieu désolé, qui est un lieu de combat. Nous sommes dans la nature vierge, nous sommes dans un contexte de christianisation, ne l'oublions pas, de l'Angleterre. Et donc, Cuthbert doit lutter contre les fantasiae démoniaques, c'est-à-dire toutes les images illusoires suscitées par les démons, peut-être évocation des croyances païennes. En tout cas, il apparaît ici comme un Miles Christi, armé du glaive de la parole de Dieu et du bouclier de la foi, construit son ermitage, avec l'aide angélique, signe qu'il a atteint un état spirituel qui le rend désormais semblable aux anges. Donc les quatre angélophanies donnent au récit une structure et scandent un itinéraire spirituel, en s'appuyant sur les modèles bibliques des apparitions à Tobie, à Jacob, à Abraham. On est en présence de deux apparitions qui signifie, on va dire, la purification, la guérison du corps et la révélation du destin glorieux de l'âme. Elles sont liées, les deux autres angélophanies suivent l'entrée de Cuthbert au monastère, donc son changement de statut, son accession au statut de moine, et sont liées aux deux modes de connaissance de Dieu, les voies de l'action et de la contemplation, de l'amour du prochain et de l'amour de Dieu. On peut aussi envisager de cette manière-là, hein, l'axe de l'amour du prochain, hein, l'ange guérit Cuthbert, Cuthbert réchauffe et nourrit l'ange, et puis d'autre part, l'axe vertical de la contemplation avec l'ascension de l'âme de l'évêque et l'édification de la cellule, image ici-bas de la cité de Dieu et donc de la vie céleste. Donc dans la littérature hagiographique, notamment insulaire, les angélophanies ont une sorte de fonction de, entre guillemets, je dirais, pour être prudent, de sacrement visionnaire, qui rythme un itinéraire spirituel et permettent de marquer la sainteté. Dans les images, la relation de l'ange et de l'homme est d'abord celle d'un initiateur qui fait progresser son élève dans son itinéraire, puis c'est celle d'un compagnon et d'un ami spirituel, empreint de familiarité et de respect, comme on le voit dans la dernière image. Alors je voudrais maintenant en venir à mon deuxième point concernant la hiérarchie céleste et l'ascension mystique, qui va rejoindre partiellement ce que M. Jambet nous a exposé, mais évidemment je vais le faire du point de vue de l'ascension mystique, de la figuration des états spirituels, puisque mon fil rouge aujourd'hui, c'est donc la notion de figura. Alors peut-être commencer par signaler que dans l'histoire médiévale, l'héritage dominant, en dépit, on va le voir, de l'apport de Denis, c'est la tradition de Grégoire le Grand. La tradition de Grégoire le Grand, selon laquelle il y a bien neuf cœurs angéliques, et ces neuf cœurs angéliques remplissent des fonctions, et il convient de s'associer à eux, mais en n'étant pas en présence d'une irradiation, en quelque sorte, lumière, on est en présence d'une stratification des cieux, d'un compagnonnage avec l'homme, on va y revenir, et on peut dire aussi d'une certaine bureaucratie céleste, d'une administration, une forme d'administration, pour reprendre le terme qui a été utilisé, du gouvernement aussi d'ailleurs, prendre le terme utilisé déjà tout à l'heure. Donc c'est donc à la fin du VIe siècle, au fond, même si cette conception est antérieure, que le thème des neuf cœurs angéliques s'impose dans le discours de Grégoire le Grand. Et c'est intéressant, comment expliquer le succès de cette formule, de cette tradition grégorienne? Eh bien, quand on voit un petit peu comment Grégoire le Grand distingue les anges, eh bien, on s'aperçoit qu'au fond, je caricature à peine, je dirais, il y a ceux qui contemplent, il y a ceux qui combattent, il y a ceux qui travaillent. Je veux dire qu'il y a une trifonctionnalité finalement assez commode, puisque les anges aident, consolent et protègent, les archanges annoncent les plus grandes choses, les vertus administrent les signes et les miracles. Ensuite sont réunies les puissances qui répriment les démons, les principautés qui commandent les armées célestes, les dominations qui règnent sur les princes. Et puis il y a les trônes, les chérubins et les séraphins qui sont tournés, eux, vers Dieu, qui sont ceux qui connaissent les jugements divins, qui ont la science de Dieu, les chérubins, et ceux qui expriment le mieux l'ardeur de l'amour divin. Donc à ce schéma général, on va le retrouver sans cesse repris, alors évidemment dans les traités de théologie, mais aussi dans la liturgie, ce qui est d'un... On oublie toujours, les textes de la liturgie sont un poids considérable au Moyen-Âge, et notamment à partir de ce texte pas très connu, mais absolument capital, qui est l'homélie 34 sur l'évangile de Luc, que Grégoire le Grand a rédigé à partir donc d'une exégèse de la parabole de la drachme perdue, qui va avoir un succès énorme, au moins jusqu'au milieu du Moyen-Âge. Donc pas de système hiérarchique cohérent, mais un empilement d'offices, de ministères, dans lequel les rapports entre les ordres ne sont pas clairement établis. Du coup, dans l'iconographie, ma foi, on a ce type de représentation, de reliant les anges, réunissant les anges et les hommes, les neuf cœurs sous la forme de demi-médaillons, vous voyez, disposés autour d'une échelle à l'intérieur de laquelle vous avez les saints regroupés par catégorie, hein, six catégories de chants de saints. Également dans le manuscrit, hélas disparu en 1870 à cause des Prussiens à Strasbourg, le Hortus Deliciarum, donc avec ces neuf strates superposées qui réunissent des anges et des saints, et comme c'est un monastère féminin, le monastère Saint-Odile, hein, on a les virginesses tout en haut, bien sûr, ce qui est, je le signale pour les dames qui sont ici, donc les femmes sont au premier rang, au rang supérieur. Hein. Et puis, on a évoqué l'année dernière Hildegarde de Bingen. Hildegarde de Bingen est également tributaire de la vision grégorienne, puisque en fait on a une disposition en cercle emboîté, mais cette disposition n'est pas du tout une disposition dionysienne, qu'on pourrait penser. C'est une irradiation de lumière, certes, mais qui respecte l'ordre établi par Grégoire le Grand. Une image plus ambiguë qui est celle-là, je n'ai pas le temps de commenter. On a trois groupes de trois anges, mais je ne suis pas pour ma part persuadé qu'il s'agisse de trois groupes superposés. C'est un détail. Alors, c'est dans les années 1130-1140 que le corpus du pseudo Denis la Rupagite est découvert à Paris, dans le cadre de l'école de Saint-Victor. Et à partir de là, on va voir se développer une autre conception du monde angélique, sous la forme toujours de neuf cœurs, mais regroupée en triades, avec le développement d'une hiérarchie qui est définie cette fois-ci, donc, certes par des fonctions, mais surtout par un degré de participation à la divinité, plus ou moins grand. Tous les anges participant donc à, sous la forme de médiation théophanique, à la lumière divine. Je précise juste en passant qu'il n'y a pas de lien causal dans cette relation entre l'univers hiérarchique et l'univers humain. Il n'y a pas de procession non plus dans le schéma dionysien tel qu'il est apparu dans la culture médiévale, entre les anges supérieurs et les inférieurs. Toutes les créatures sont tournées vers Dieu, c'est en lui qu'ils sont semblables fraternellement. Donc les degrés de l'échelle céleste correspondent à une participation plus ou moins grande à l'être, chaque être relevant directement du Créateur. C'est Hugues de Saint-Victor qui joue un rôle majeur dans cette acclimatation, on va dire, du traité dionysien sur les hiérarchies célestes à cette acclimatation à la culture médiévale et notamment à la pensée augustinienne. Ce qui fait que, je n'ai pas le temps de détailler cela, mais que la notion de théophanie telle qu'elle est véhiculée à partir du XIIe siècle et au XIIIe siècle dans la culture latine, eh bien, va prendre un sens beaucoup plus nuancé, on va dire, balancé, qu'en Orient byzantin, hein, puisque ces théophanies, nous dit de Saint-Victor, sont à la fois certes des formes d'apparition, des formes de connaissance, mais des formes limitées, et des formes qui ne sont pas en elles-mêmes la vérité. La notion de simulacrum, c'est-à-dire d'apparition, ressemblance figurative, mais qui peut constituer un obstacle, une interposition à la vision divine, étant une formulation assez fréquente. Il reste que le retour à Dieu, et c'est ça qui va m'intéresser maintenant, se fait pour un grand nombre d'auteurs, avant tout par une familiarité préalable avec le monde des anges, qui sont manifestés en image dans la lumière divine. Jusqu'à la fin du XIIe siècle, il faut en effet se souvenir que l'idéal chrétien indépassable, c'est l'idéal monastique. Et que la vie angélique reste le modèle, jusqu'à la fin du XIIe siècle, le modèle suprême de la vie chrétienne, et donc de la rencontre avec le monde spirituel et avec Dieu. Alors on a, à partir donc du milieu du XIIe siècle, des auteurs qui vont être plus ou moins marqués par Denis. On a des images même, alors ça c'est beaucoup plus tardif, c'est du XIVe siècle, mais vous voyez Denis l'Areopagite en bas, en train de contempler les hiérarchies célestes avec au sommet la Trinité. Et puis on va avoir, je vais parler des auteurs ensuite, deux représentations, très très peu, et très très difficiles évidemment, en iconographie, de traduire la pensée dionysienne. C'est bien évident. Autant il est facile de traduire la pensée de Grégoire le Grand, autant pour Denis c'est très très difficile. Nous en connaissons essentiellement deux exemples, peut-être trois avec celui que je vous ai montré tout à l'heure. Premier exemple, c'est la coupole du baptistère Saint-Jean-Baptiste de Florence. Alors les historiens de l'art se sont échinés pendant des années à comprendre dans quel ordre étaient installés les neuf chœurs, parce que, visiblement, ils n'étaient ni placés, quel que soit le sens de lecture circulaire qu'on pouvait faire, ils n'étaient placés, puisqu'il y a leur nom, explicitement, ils n'étaient placés ni dans l'ordre grégorien, ni dans l'ordre, nous disait-on, dionysien. Or, les choses sont... Enfin, il suffisait de réfléchir un petit peu pour trouver la solution, c'est que, en réalité, comme on est dans un schéma ici dionysien, on a une relation qui est faite entre les chœurs, qui va d'un côté à l'autre de la coupole. Et donc là, on voit bien que, en fait, la relation entre les anges qui sonnent de la trompette, qui sont à la base ici, et le Christ entouré des chérubins et séraphins en haut, se fait en fait en passant d'un côté à l'autre, tout simplement pourquoi ? Bien parce qu'on a ici une tentative plastique, on va dire, de rendre la nature angélique comme miroir divin, tout simplement. On est en présence d'une tentative de représentation de la descente de la lumière divine par palier, par miroir, on capte la lumière d'en haut, sur un miroir, on l'a fait descendre à l'échelon inférieur. Bon, simplement, pour comprendre cette logique-là, il fallait aller un petit peu plus loin que un déchiffrement, on va dire, circulaire de la représentation. On a le même schéma, cette fois-ci, chez nous, si j'ose dire, en France, avec la verrière Saint-Apollinaire de Chartres, bon, alors, qui a été déplacée, mais enfin, peu importe, hein, elle est maintenant dans le transept sud de la cathédrale de Chartres, alors qu'elle était dans le cœur à l'origine, fait partie des choses qui sont problématiques quand on étudie les vitraux. Hein. On a une représentation des neuf chœurs sous la forme des trois hiérarchies célestes, avec un schéma de même type, c'est-à-dire que l'on a, pour comprendre la composition du vitrail, une descente de la lumière, et donc par conséquent aussi une remontée, qui prend la forme d'une échelle, de sorte, et donc d'une cascade de lumière, chaque catégorie d'ange étant une sorte de miroir qui transmet la lumière. Donc une première hiérarchie, avec les anges à encensoir, une deuxième avec les archanges qui pourfendent les démons, les principautés qui portent des livres, et ensuite les puissances avec leurs attributs. On est au XIIIe siècle, vers 1220-1230, et donc on a des représentations qui utilisent des attributs précis, puissance, vertu avec les sceptres et les dominations avec leurs couronnes. Et enfin, la troisième hiérarchie, avec les trônes qui sont entourés de une sorte de mandorle rouge. Le chérubin avec, l'on voit assez mal, mais des ailes médianes qui sont ocellées, couvertes d'yeux, donc comme nous le dit le texte du prophète Ézéchiel, et enfin les séraphins. Alors, ça m'incite à dire un mot quand même des auteurs mystiques qui se sont emparés de cette tradition des neuf cœurs pour les intégrer à une réflexion sur l'ascension spirituelle. Je citerai deux exemples, pour ne pas être trop long, et je citerai malheureusement rapidement. Le premier exemple, c'est Achard de Saint-Victor. Je vous ai parlé de l'école de Saint-Victor. Achard de Saint-Victor est mort vers 1171, et il est donc chanoine à Paris, donc la fameuse école de Saint-Victor, l'abbaye de Saint-Victor, donc sur la montagne de Sainte-Geneviève. Et pour lui, les neuf cœurs angéliques figurent les degrés de l'ascension contemplative et de la connaissance de Dieu. Il s'agit d'une réflexion dans ses sermons, puisque beaucoup de cet enseignement en fait passe par les sermons, alors les sermons qui sont à usage interne, évidemment, des communautés. Ces degrés de l'ascension sont fondés sur une correspondance entre être et connaître, et la relation est établie entre les modes de contemplation ou de connaissance de Dieu et les hiérarchies des cœurs angéliques. Donc il s'agit seulement de correspondance entre les hiérarchies et les états successifs par où passe le spirituel dans son ascension intellectuelle. De sorte que, à mon sens, on peut parler ici de figura, puisque chaque cœur angélique correspond à ce qu'on pourrait appeler une station spirituelle, un état précis qu'il convient d'acquérir avant d'intégrer l'état suivant. Donc il s'agit d'abord de purification de l'âme. Il s'agit donc d'enclencher en quelque sorte un processus de ressemblance entre la créature et le créateur, ou une participation aux perfections du créateur. L'aptitude à connaître et aimer Dieu associe l'homme spirituel ensuite aux puissances et aux vertus, puis à ce niveau, la réflexion sur le statut ontologique des créatures amène la prise de conscience de leur inconsistance et une connaissance du principe des choses qui associe l'homme contemplatif aux principautés. De là, une nouvelle étape: pour persévérer dans l'être, les créatures doivent être administrées, gouvernées par Dieu, Seigneur de l'univers, d'où l'association de l'homme aux dominations. Mais c'est avec les trois ordres supérieurs qu'il parvient à une connaissance plus immédiate de Dieu. Avec les trônes, il entre dans l'abîme des jugements divins et de leurs raisons cachées. Avec les chérubins, il entre dans les raisons formelles des créatures et les opérations divines. Il voit les causes finales, les desseins divins, la bonté de Dieu en étant soulevé au plan des séraphins. Donc les trois ordres supérieurs conduisent à une connaissance de la justice, de la sagesse, de la bonté de Dieu. Mais attention, dans le schéma de Achard, cette association graduelle aux neuf cœurs n'est pas le sommet de la vie spirituelle. C'est-à-dire que, c'est très intéressant de le souligner, la plénitude de la vie active et contemplative a lieu lorsque le modèle de l'homme spirituel n'est plus l'ange, mais la Vierge Marie. L'homme doit se faire, vous allez dire, vierge, doit se devenir féminin au sens réceptacle. Au sens où, pour Achard, le but du spirituel est de concevoir, porter et engendrer le Fils. Or, pour concevoir, porter et engendrer le Fils, eh bien, il faut devenir Marie, Vierge Marie. Bon. Et il identifie même ces trois étapes, ou ces trois états, si on peut dire, aux trois cieux réalisés ou vus par saint Paul. Bon. Alors, deuxième exemple que je voudrais citer, parce qu'il est, lui, beaucoup plus dionysien, alors on a un exemple qui est Achard est encore finalement assez peu marqué par Denis, c'est tout à fait à part, même s'il appartient à l'école de Saint-Victor. En revanche, avec Thomas Gallus, qui est du début du XIIIe siècle, on a affaire à un auteur qui a été aussi d'ailleurs chanoine à Saint-Victor, avant d'être abbé de Verceil, en Italie, un auteur qui est fortement marqué par l'enseignement dionysien. Et c'est-à-dire que dans son schéma, la hiérarchie inférieure de l'esprit consiste dans sa nature même, c'est-à-dire que la nature raisonnable fonde notre sagesse, agit selon les premières appréhensions de la volonté, de l'affectus et de l'intellectus, qui ont leurs racines dans les anges et les archanges. La première élévation de Dieu revient aux principautés. Dans la deuxième hiérarchie, ce qu'il appelle l'industria, c'est-à-dire l'effort, opère conjointement avec la grâce. Dans les puissances, l'âme est ordonnée, disposée à la contemplation. Les vertus accomplissent ce programme en unissant les mouvements de l'esprit, la vie active et les vertus naturelles. Et enfin, les dominations écartent tous les obstacles et font triompher l'orientation de l'affectus et de l'intellectus vers le souverain bien. Donc un acte de concentration extrême des activités intellectuelles et affectives sur le rayon divin. Donc dans ce schéma, les dominations sont un réceptacle de lumière et de sagesse. L'ascension s'accompagne de perception de lumière venue de la hiérarchie supérieure. C'est au niveau donc de la troisième et dernière hiérarchie qu'il y a dépassement de l'esprit, excessus mentis, tout ce qui relève de l'office des sens, de l'imagination, de la raison, de l'intelligence, tout cela est abandonné. Il y a libération de l'esprit par rapport aux puissances d'ordre affectif et cognitif, et contemplation et amour des choses divines. C'est-à-dire qu'à ce stade, ce n'est plus l'esprit qui agit, c'est Dieu qui agit seul dans l'esprit humain. Et donc, l'âme appartient successivement au trône, au chérubin et au séraphin de l'esprit. Et c'est au niveau du séraphin de l'esprit que, pour Thomas Gallus, toute activité, en quelque sorte, cesse au point d'une rencontre, on va dire, entre l'âme et Dieu. Donc on voit bien là que dans ce schéma-là, la hiérarchie angélique joue un rôle beaucoup plus important que dans le schéma précédent. Donc c'est par l'ordre du séraphin que Dieu pénètre et déifie l'âme, qu'il absorbe dans sa lumière. Alors ça m'amène à mon dernier point, parce que c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Je reprendrai un titre de Corbin, l'homme et son ange, du gardien au séraphin, figure de la connaissance visionnaire. Je voudrais surtout me concentrer sur le séraphin pour développer un petit peu ce que je viens de vous exposer. Le gardien et le guide, ça c'est un topos, on va dire, de la culture médiévale depuis le début. Toute la littérature des voyages dans l'au-delà, des explorations de l'enfer, qui est déjà assez dense dans les apocryphes chrétiens, a été largement développée par la suite. Par exemple, donc, les visions de Tondal, qui datent du XIIe siècle, qui ont été illustrées par la suite. On aime bien recevoir des informations de l'au-delà. Et donc, pour cela, on a ce qui se passe après la mort. Et donc, on se fie au... On a besoin d'un guide. Voilà. Dieu ne suffit pas, effectivement. Donc, on a besoin d'un guide, d'un initiateur. Et on a, surtout avec le développement de l'eschatologie médiévale, un recours de plus en plus fréquent au guide, à l'instructeur, pour ce qui concerne les fins dernières de l'homme. D'autant plus qu'on a modifié la topographie de l'au-delà avec l'introduction du purgatoire à partir de la seconde moitié du XIIe siècle, et donc on a besoin d'informations sur ce qui s'y passe, le purgatoire, et sur les relations qu'il convient de développer pour sauver les âmes qui y séjournent plus ou moins, enfin en tout cas temporairement, pour un temps plus ou moins. Bien. Alors, jusqu'alors, le séraphin, j'allais dire, était envisagé de manière collective, en relation avec le fameux livre d'Isaïe, chapitre 6, et en lien, je dirais, avec la liturgie. Corbin a d'ailleurs eu des sortes de passages très importants sur la liturgie et la hiérohistoire, et comme j'ai déjà parlé de cela ici il y a quelques années, je n'y reviens pas, mais je veux insister sur cette dimension collective des séraphins et sur l'union des anges et des hommes dans la liturgie céleste, notamment dans le monde monastique, d'où la représentation que vous avez ici, par exemple, dans les missels, dans les sacramentaires du Haut Moyen-Âge, d'abord, ensuite dans les missels, et puis également dans les fresques, dans les absides des églises. Les visions des prophètes sont utilisées, comme on le voit ici à Sainte-Maria d'Anneuil. La vision d'Ézéchiel et la vision d'Isaïe sont fusionnées, en quelque sorte, dans une même représentation pour représenter cette liturgie céleste dans un endroit même où a lieu la liturgie terrestre. Mais alors, ce qui est de nouveau, et là je rejoins ce que je viens d'expliquer à propos de Thomas Gallus, c'est le fait que, à partir de 1200, alors le texte de Thomas Gallus que je l'ai rapidement commenté, 1223, mais il se trouve que l'année suivante a lieu la fameuse vision du Séraphin de saint François d'Assise, septembre 1224. Et là, on est évidemment en droit de dire que on a une sorte, à travers l'itinéraire franciscain, une sorte, on pourrait dire entre guillemets, de vérification expérimentale de ce qui a été théorisé en quelque sorte par Thomas Gallus et par d'autres. C'est-à-dire qu'à partir de cette expérience qui est pratiquement la dernière de son existence, expérience spirituelle, hein, cette vision du Séraphin qui est d'abord avant tout un état spirituel, justement quand on lit les textes, hein, vision du Séraphin entre les ailes desquelles va apparaître la forme d'un homme en croix. Bon, il ne reste pas moins que quand on voit l'iconographie et quand on voit les textes, ce qui domine d'abord, c'est l'état d'embrasement spirituel, hein, incendium amoris, dira Bonaventure, qui caractérise François. Bon. Et c'est dans un deuxième temps qu'on va se polariser sur les fameux stigmates que François aurait reçus à cette occasion, comme conséquence, en quelque sorte, de l'apparition du Séraphin. Bon. Il reste que dans les textes, dans les images, pendant toute la première partie, toute la deuxième moitié du XIIIe siècle, pratiquement, entre 1224 et 1290, on n'a pas de stigmates. En tout cas, ils sont invisibles, vous voyez, sur les images que vous avez ici. On commence à les voir apparaître à la fin du XIIIe siècle sur le Séraphin et puis sur François. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est qu'à partir de là, on va voir se développer tout un ensemble d'expériences spirituelles dont nous témoignent un certain nombre de textes sur la vision du Séraphin, ou la vision des Séraphins. Alors je ne fais que citer quelques noms, j'en citerai un ou deux, Mectide de Magdebourg, une des saintes visionnaires de l'époque, qui voit dans les cieux les vierges être intégrées au cœur des Séraphins, et après le jugement, être élevé au-dessus d'eux. Bon. Et puis Adeviche d'Anvers, la béguine, dont la 13e vision est celle de la face de Dieu escortée et voilée par les séraphins. Je pense que, je ne sais pas si Henri Corbin connaissait ce texte-là, mais il aurait sûrement adoré ce texte, parce que c'est extraordinaire. Adeviche voit apparaître un certain nombre de séraphins, et elle a son propre séraphin. Elle dit « Mon séraphin m'amène sur un siège devant la face de Dieu, il me demande de m'asseoir sur ce siège et pour que je puisse contempler la face de Dieu. » Alors cette face de Dieu, elle est voilée par des ailes. Hein. Et le séraphin va lui dire je vais ouvrir les ailes les unes après les autres, hein, pour que tu vois la face de Dieu. Hein. Donc là, on a pour le coup une médiation ultime du Séraphin qui rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure dans le texte de Thomas Gallus et qui rejoint ainsi d'une certaine manière l'expérience de François. Alors vous allez me dire, mais bon, tout cela, ce sont des visions de femmes. Oui, ce n'est pas non plus un hasard. Vous allez me dire, mais il y a François d'Assise. Mais François d'Assise est-il un homme? D'après mon collègue, éminent collègue Jacques Dallarin, non. S'il a écrit un livre sur la vie religieuse au XIIIe siècle qui s'appelle « La religion faite femme ». Parce qu'effectivement, on est à une époque, excusez-moi d'être historien, on est à une époque où les choses changent. Hein. C'est-à-dire où ce qui va compter de plus en plus, c'est la rencontre avec le Christ homme, avec le Christ la Passion, et donc la figure séraphique qui nous vient de l'Ancien Testament, qui a été exploitée par la culture monastique, par on va dire, le christianisme visionnaire et eschatologique du premier millénaire, jusque vers 1200. Et bien, cette figure, elle va être mobilisée désormais pour représenter l'union la plus intime entre l'âme et le Christ. Et donc on la retrouve pour cela, j'étais moi-même étonné, de très nombreux textes du XIIIe siècle, le XIIIe siècle et le siècle en partie effectivement du pseudo-Denis, et dans ce cadre-là, le siècle, dans un point de vue, le siècle du Séraphin. Et de ce point de vue, concernant l'iconographie, la façon dont Giotto va traiter la scène de l'apparition du Séraphin, eh bien, va sonner comme un peu un point final à cette séquence de gloire, on va dire, du Séraphin au XIIIe siècle. Alors, je voudrais, pour terminer, donner quelques éléments de conclusion à mon propos. Après toute cette exploration un peu rapide, évidemment, de la figure, l'utilisation de l'ange comme figure spirituelle, figure d'état spirituel, de station spirituelle. Le Moyen-Âge occidental témoigne quand même d'une capacité assez extraordinaire à utiliser l'ange comme figure d'étape ou d'état spirituel ou comme figure de degré de connaissance de Dieu. Deuxième observation générale, les écarts entre les données théologiques, parfois conflictuelles ou difficiles à harmoniser, notamment entre la perspective de Saint-Augustin et la perspective du pseudo-Denis, et les textes mystiques et les expériences religieuses, visionnaires en particulier, sont assez importants et laissent une place plus ou moins grande aux médiations angéliques. Donc là, on a tout un éventail, rapidement cité, de points de vue, en quelque sorte, et d'utilisation de la figure. Troisième point, les évolutions importantes sont dévoilées par cette thématique angélique au sens mystique, ou d'ascension mystique. On assiste à un déploiement de la relation entre l'homme et l'ange. Il ne s'agit plus seulement donc de l'ange gardien. Je sais que Corbin déplorait cette certaine timidité angélique ou angélologique en Occident. Or, c'est vrai que le thème de l'ange gardien commence à se développer au XIIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle. C'est un thème monastique qui arrive plus ou moins rapidement, plus ou moins lentement, à sortir du cadre monastique pour concerner le clergé en général, d'abord, puis les laïcs. Les premières oraisons de laïcs dans des livres d'heures à l'ange gardien peuvent être datées du début du XIVe siècle. Bon. Et c'est l'époque moderne qui va développer surtout cette dévotion à l'ange gardien. Mais on voit bien que, avec ce que je viens de vous présenter, qu'il ne s'agit pas que de cela, loin de là. Parmi les évolutions que dévoile cette thématique, on a en effet un développement de la relation entre l'homme et l'ange qui va jusqu'au séraphin, envisagé non plus dans un cadre collectif, mais comme individu, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, et qui témoigne donc d'un désir profond de rencontre personnelle et individuelle avec Dieu, et aussi de représentation de cette rencontre, et j'ajouterai d'une promotion de vie religieuse féminine, parce que nous sommes un des moments du Moyen-Âge où on assiste à un développement de la vie religieuse féminine dans un sens mystique, à tel point qu'on sait par exemple aujourd'hui que les béguinages qui se sont développés à partir de la fin du XIIIe siècle ont eu une influence importante sur la mystique réno-flamande qui s'est développée ensuite. Voilà, je vous remercie de votre attention.